Bonjour à tous. La solution à la crise politique française passera-t-elle par Bruxelles? Pour les auteurs du manifeste pour la démocratisation de l'Europe, la réponse passe d'abord par une transformation en profondeur des institutions de l'Union. À partir de 12h55, rendez-vous avec deux d'entre eux, l'économiste Anne-Laure Delatte et le politiste Antoine Vauchez. Mais d'abord, entre fratrie et premières amours, l'adolescence racontée dans toute sa fragilité, Anomalie, publiée aux éditions des Équateurs, nous fait grandir entre les tours de la banlieue rouge, cet endroit précis où le monde cesse d'être monde, écrit l'auteur. Elle, c'est Julie Père, scénariste d'Anthony Cordier et d'Arnaud Desplechin, et romancière, notre invitée, à écouter tout de suite sur France Culture, ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Anomalie, un roman d'apprentissage autour d'un trio amoureux, Leïla et Mehdi, frères et sœurs, adoptés, qui habitent dans une tour, et May, une nouvelle dans le quartier, jeune fille de bonne famille, fille des pavillons. Leïla est un roc, une force de vie, nageuse prometteuse, une locomotive. Mehdi est son cadet, sensible, suiveur, admiratif de sa sœur et amoureux de May. Elle est fragile, elle représente l'inconnu, une fenêtre ouverte sur un autre monde. C'est pas tous les jours qu'on entend une bande-annonce pour un livre. Alors première ligne, première page, tout de suite en son.
Une silhouette surgit. C'est Leïla. Onde brillant à la surface du monde, jeune fille nageant dans l'air élastique. J'ai 10 ans, l'éternité devant moi. D'autres enfants s'agitent et courent. Courir sans d'autre raison que la joie d'avoir des jambes et d'être au monde. Le soleil brûlait, semait autour de nous des milliers d'esquilles, aussi réfléchissantes que d'infimes éclats de diamants. Et la vie était cette bille de feu qui roulait dans nos veines. Je dois me concentrer pour revoir Leïla telle qu'elle nous paraissait à l'époque, forte et invincible. Avec le temps, bien sûr, les certitudes se sont effritées, et je vois autre chose. Je vois une pierre qui porte en elle le germe d'une moisissure. Elle s'étend en strates, la ronge de part en part. Un jour, sans qu'on ait rien vu venir, la pierre que l'on croyait incassable se fendit d'un coup sec. Cette révélation vous fait soudain découvrir le vide sous vos pieds. Vous tombez. Et tomber encore.
Bonjour Julie Père.
Bonjour.
Voilà, vous, la scénariste, vous êtes rattrapée dès ce deuxième roman par le cinéma avec cette bande-annonce de Anomalie. Ça fait bizarre de l'entendre en son. On a l'impression que le film va sortir demain.
C'est étrange. C'est Justine Beau qui a réalisé ce teaser et j'ai trouvé qu'elle avait fait un travail formidable avec très peu de moyens et elle rend hommage au texte. J'aime beaucoup cette bande-annonce.
Du cinéma au roman, Julie Père, l'adolescence est un âge qui visiblement vous convient bien, vous parle aussi, au point d'aimer vous en faire le porte-voix de cet âge-là.
C'est vrai que ce roman se situe à l'adolescence, même commence presque à la fin de l'enfance, à ce qu'on appelle la préadolescence. Et c'est vrai aussi que j'ai été collaboratrice de réalisateurs et de réalisatrices qui ont travaillé aussi sur cette période, cet âge de la vie.
Au cinéma, avec notamment Arnaud Desplechin,
oui.
3 souvenirs de ma jeunesse. On en reparlera. Pour vous, c'est un début ou une fin, cet âge-là, l'adolescence? C'est le début de tout ou c'est la fin de l'innocence?
C'est toutes les promesses de la vie. Et en même temps, c'est quelque chose qui s'écrit et qui nous rattrape, je crois, lorsque on se retrouve plus tard adulte. C'est vrai que le roman est construit, parle de deux périodes, des personnages, deux âges de la vie. On a Mehdi qui est jeune, à 10-12 ans, et puis on a le Mehdi de 35-40 ans et qui revient sur les traces de son passé. Et le premier souvenir qui jaillit comme ça, c'est le souvenir de sa sœur, Leïla, cette jeune enfant drôle, caustique, imaginative, puissante, sportive et en même temps intrusive et envahissante. Donc c'est comme un recommencement, je crois.
Avec ces quelques mots qu'on a entendus, je dois me concentrer pour revoir Leïla telle qu'elle nous paraissait à l'époque, forte et invincible, un roc férocement solide. Avec le temps, bien sûr, les certitudes se sont effritées et je vois autre chose. Je vois une pierre qui porte en elle le germe d'une moisissure qui s'étend en strates, la ronge de part en part. Quel va être le point de bascule dans leur vie à cette fratrie, à Leïla et Mehdi? Quel est le moment qui va éclairer en partie aussi leur différence de tempérament?
Il y a une multitude de choses. Le livre s'appelle Anomalie et c'est un titre qui m'est venu très tôt. Et je crois que ce motif, mais ça c'est quelque chose que j'ai compris presque à la fin du roman, ce motif est présent dans toutes les strates du récit. Le point de bascule, je pense que je ne peux pas le révéler parce que c'est quelque chose qu'on découvre à la lecture du roman.
Le premier point de bascule, est-ce que c'est pas quand même le départ de leur mère? Est-ce que c'est pas l'abandon dans cette cour d'école?
Bien sûr.
Le moment où ils vont être recueillis par Daniel et Dédé.
Bien sûr.
Ces deux parents adoptifs, est-ce que c'est pas de là que vont naître leurs différences, leur manière de se protéger aussi de cet abandon, des mécanismes de défense et de survie qui seront particuliers?
C'est certainement la première anomalie, c'est certainement le premier accident de parcours. Et ensuite, ils sont adoptés par un couple, Daniel et Dédé, et ils ne reçoivent pas d'affection de la part de ce couple, ni d'amour, et c'est vrai qu'ils vont combler cette absence d'affection dans les bras de l'un de l'autre, dans un amour, un lien très fort et aussi interdit.
Avec Nicolas Mathieu, prix Goncourt cette année, on parlait de ce monde qui disparaît, qu'il a aussi abordé à travers son roman, l'histoire d'une jeunesse à l'est de la France dans les années 90. Chez vous aussi, il y a un monde qui est en train de disparaître et une France de l'entre-deux. Daniel, la mère adoptive, incarne cette France qui s'en va. Elle est institutrice, elle est militante communiste, c'est une femme de principe et d'engagement. Elle va à toutes les réunions, elle tracte sur les marchés, elle est passée par le parti aussi pour retrouver un job à l'usine chez Citroën quand son mari avait perdu le sien. Daniel, vous l'écrivez, était le mortier. Sans elle, tout s'écroulerait. Il y a cette question de la filiation et de l'identité qui est aussi très présente dans votre roman, Julie Père. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous de savoir d'où l'on vient?
J'ai situé ce roman dans les années 80 parce que sur l'île Saint-Denis, c'est là où j'ai grandi. J'avais été frappée, je restais frappée par ces personnes que j'avais connues, que j'avais côtoyées, qui effectivement, comme Daniel, avaient été des militants, des militantes communistes très engagées. Et cette idée d'avoir comme ça dans l'esprit la possibilité d'un monde meilleur, d'un monde plus égalitaire. Je pense que j'ai grandi avec cette idée. Et si vous posiez la question de là d'où je viens, je pense que je viens de ça. Je viens de ce monde qui euh, qui s'est fini peut-être, un monde qui était facile, plus facile je pense à penser, où il y avait des raisons d'espérer, et aujourd'hui il y a peut-être moins de raisons d'espérer, plus de raisons de désespérer, et je voulais retrouver voilà ce qui avait été comme ça le berceau de la personne en devenir que je suis.
Un monde où les frontières existaient déjà, mais où elles étaient peut-être plus claires. En tout cas, on savait quand on les franchissait. Vous racontez que ces enfants grandissent dans la banlieue rouge. Il dit, à un moment, Mehdi, je regardais la ville où j'avais grandi, ses austères façades, ses artères brisées, l'ossature des blocs de béton, et je me disais en moi-même, c'est ici que je vis. Est-ce qu'un jour quelqu'un d'autre que moi verra cet endroit comme je le vois? L'endroit précis où le monde cesse d'être le monde. Pourquoi, Julie Peer? Quelle frontière symbolique s'est effondrée?
Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours une affinité pour la périphérie des villes, pour ces banlieues. Quand je visite une ville, je ne me cantonne jamais au centre-ville, à visiter l'église ou la cathédrale. Il faut toujours que je prenne un bus ou un train et que je m'éloigne et que j'aille voir ce qui se passe à côté. Alors, je ne sais pas, l'île Saint-Denis est pas si loin de Paris. J'ai refait le chemin il y a pas très longtemps. Mais c'est vrai qu'à cette époque, on avait l'impression, par la géographie même de ce lieu, cette île qui est entourée, qui est donc un long filament de terre qui se situe dans un méandre de la Seine, et donc entourée des deux bras de Seine, c'est vrai qu'on avait le sentiment d'être très éloignée de tout. Et j'avais envie de rendre hommage à ce lieu que par ailleurs je trouve très beau, assez magnifique.
Qui est entre le non-lieu et un autre monde, tel que vous le décrivez aussi. Hein. Cet endroit précis où le monde cesse d'être le monde.
Parce que l'île ne bouge pas et que tout autour bouge, la Seine bouge, les bateaux passent, les voitures passent sur les ponts et traversent l'île sans s'arrêter. Et les enfants restent là où ils sont.
Alors les temps ont changé et les lieux aussi. On a évoqué la figure de Daniel, la mère adoptive. On peut peut-être parler de celle de Dédé. Dédé, le père adoptif, c'est celui qui en veut à tout le monde, aux nouveaux arrivants surtout, parce qu'ils prennent de la place dans la cité et les jobs à l'usine. Je vous cite. Après 68, dans les usines, les patrons ont eu l'air d'avoir compris la leçon. Seulement, quand il y en avait un qui partait, on le remplaçait par un travailleur étranger. Comme ça, à la longue, ils étaient sûrs qu'ils ne se syndiqueraient pas et qu'il n'y aurait plus de mouvement de grève. Ils sont arrivés dans les usines de plus en plus nombreux, dans les HLM aussi. Sitôt qu'une famille française déménageait, on voyait arriver Bamboula et compagnie. À l'usine, c'était pareil. Chaque fois qu'un copain partait à la retraite, il était remplacé par un noir ou un gris. Ce sentiment de déclassement, ce racisme aussi latent, cette peur de l'autre, parce qu'elle...
Oui.
Ils prennent les places et que ce monde est en train de changer. Vous l'avez connu autour de vous, par vos parents, des amis, des gens du quartier?
Oui, je crois que je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu, ce basculement, comment des gens se sont repliés sur soi, n'ont plus que des peurs comme seul moteur de leur vie. Après, le moment où Dédé tient ses paroles est un moment assez particulier dans le roman, puisque il vient d'enterrer sa femme et le chagrin est très présent. Et en même temps, il y a une cruauté très forte. Et ça ressemble aussi à ce qu'avait pu dire un président de la République française. On n'est pas très éloigné du bruit et l'odeur qu'on avait pu entendre dans la bouche de Jacques Chirac. Donc, ce qui a donné, à mon sens, une légitimité, malheureusement, à ce genre de point de vue.
Et qui s'est poursuivi avec d'autres présidents. On se souvient évidemment de la période très conflictuelle aussi entre Nicolas Sarkozy et les banlieues, et d'ailleurs les émeutes de 2005 dans le roman. Vous y revenez, Julie Peer. Je voudrais revenir à ce temps particulier de l'adolescence, parce que c'est un roman d'apprentissage, un roman d'initiation aussi pour Leïla et Mehdi. Des premiers désirs au chagrin amoureux, l'adolescence, c'est un état de trouble permanent que vos deux personnages vont devoir apprendre à gérer dans un cadre très mouvant, d'autant qu'ici, vos personnages vont grandir à côté d'un lourd secret, enfermé comme un fantôme dans le placard de l'appartement. Je vous propose d'écouter le psychologue Philippe Grimbert, auteur de Un secret en 2004, adapté par Claude Miller au cinéma sur le poids des secrets.
Un secret, c'est une chose assez banale qui a été tue et qui, du fait qu'elle a été tue, est devenue une véritable charge de nitroglycérine. C'est-à-dire que la nature du secret elle-même, vous savez, quand on parle des secrets de famille, qu'est-ce que c'est? C'est ton grand-père n'était pas ton grand-père, ta mère est partie à un moment donné avec un autre, enfin, des choses qui sont évidemment extraordinairement douloureuses, mais aussi extraordinairement banales dans le cadre de la vie. Mais le fait que ces choses-là ne soient pas dites leur fait constituer, je veux dire, quelque chose comme une écharde qui s'infecterait au fur et à mesure des années, et qui non seulement s'infecterait, mais se transmettrait aussi comme infection aux générations qui suivent. Donc un secret, c'est... Dans sa version, j'allais dire la plus négative, c'est quelque chose qui va faire mal, à ceux qui le gardent, qui ne peuvent pas le dire, à ceux qui évidemment en sont écartés, et même à ceux qui vont en hériter. Mais un secret a aussi des aspects positifs. Hein. Je veux dire que, au fond, quand on dit à un camarade ou à un ami d'enfance, je vais te confier un secret, c'est une preuve d'amitié magnifique. C'est aussi quelque chose qui réunit.
Alors on ne va pas le donner, vous, votre secret ou le secret du livre, Julie Père, le secret d'Anomalie, mais on peut peut-être essayer de comprendre ensemble la place que vous avez souhaité lui donner dans la narration, dans le roman. À partir du moment où le secret est révélé, le récit forcément va se recomposer, la problématique va plus être la même pour les personnages du livre. Vous auriez pu choisir d'ouvrir sur la révélation du secret et puis de remonter le fil. Pourquoi avoir choisi de le faire durer, ce secret, de le placer là, dans l'histoire ?
Pour être tout à fait honnête, je crois que quand j'ai commencé l'écriture, je ne savais pas qu'il y avait ce secret. C'est la magie, peut-être, à un moment donné, de mettre en place des choses, de mettre en place comme un puzzle et de découvrir à travers les personnages que vous avez imaginés des choses qu'ils ont à vous dire et à vous révéler.
Entre le frère et la sœur, la nuit va se nouer une autre relation, faite de gestes tendres d'abord, puis un peu plus affirmés. L'anomalie, qui donne son titre au roman, c'est ça pour vous? C'est l'inceste? C'est le tabou ultime?
Comme je vous disais tout à l'heure, le titre est venu très tôt, mais c'était une exploration. J'explorais ce motif. La première anomalie, pour moi, dans le livre, c'était une anomalie physiologique qui était la scoliose dont souffre May. Et d'ailleurs, à un moment donné dans le livre, elle demande à son père, qui est médecin, elle lui demande « Mais d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est ?» Et son père, pour lui expliquer, entasse des morceaux de sucre les uns sur les autres et il fait tourner un tout petit morceau de sucre d'un degré et il lui dit, bah voilà, tu vois, quand je tourne ce morceau de sucre, c'est toute la colonne, c'est toute cette colonne vertébrale qui en est bouleversée. Et donc, si on peut dire, l'inceste fait partie de ces petites perturbations, enfin petites, n'exagérons pas, c'est quand même un élément majeur, mais c'est quelque chose qui les ronge et qui se situe à différents niveaux.
Julie Père, je voulais qu'on parle un peu de cinéma parce que vous avez aussi beaucoup travaillé sur cette question de la jeunesse, de l'adolescence et du désir à travers les scénarios que vous avez écrits. Une citation de Gaspard qui va au mariage, il est dit dans le film « Il paraît que dans nos actes se cache toujours le désir d'un enfant qui cherche à être aimé de sa famille ». Est-ce que cette phrase, vous la signez dès demain? Est-ce qu'elle est de vous, d'ailleurs?
Cette phrase n'est pas de moi, cette phrase est d'Anthony Cordier. Et cette phrase est venue assez tard, d'ailleurs, dans l'écriture. C'est curieux comme parfois les choses se révèlent. Mais oui, je suis... entièrement d'accord.
On est en compagnie de la scénariste et romancière Julie Père jusqu'à midi et demi. France Culture, vous êtes à l'écoute de La Grande Table.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Scénariste d'Anthony Cordier et d'Arnaud Desplechin, l'adolescence, les premières amours, les rêves des garçons, la liberté nouvelle des filles, déjà dans trois souvenirs de ma jeunesse, pour lequel vous avez obtenu, Julie Père, le César du meilleur scénario original, extrait.
Paul, qu'est-ce que tu fais à Paris?
Je suis dans les sciences d'anthropologie.
Tu dis lui-même. Putain, c'est bizarre Paris. Tu t'habitues là-bas?
Oui.
T'es devenu plus causeur en tout cas toi, hein?
Je cultive mon mystère.
Mystérieux, tu parles. Tu veux t'inscrire sur la liste d'attente?
Oui, du pauvre.
C'est quoi ça? Ta mère, elle est d'accord?
Bah, elle sait pas. Allez.
Bon, allez, les amoureux. Allez. Je monte devant.
Paul, chez toi. Ouais.
Allez, s'il te plaît.
On range les mobilettes. Et vous, Julie Père, si je vous demandais 3 souvenirs de votre jeunesse, lesquels garderiez-vous? Oui, c'est pas cool, hein. Je vais pas demander de préparer.
Je crois que le premier souvenir, c'est un garçon. C'est un amoureux, c'est mon amoureux, évidemment. C'est les livres, la découverte de la littérature. Et puis la découverte du cinéma aussi. Ce ne sont pas des souvenirs très précis. Je pense que j'ai des souvenirs plus précis de mon enfance que de mon adolescence.
Et alors le premier film que vous avez vu au cinéma, vous vous en souvenez?
Je crois que c'était E.T.
E.T. Et le premier livre qui vous est vraiment marqué?
Les livres de Kundera. Quand j'ai découvert ce romancier... Parce que jusque-là, je pense que je ne lisais que peut-être que les livres que l'on étudiait au collège. J'ai eu le sentiment, par Kundera, de quelqu'un qui s'adressait à moi, que pour moi.
Vous êtes aujourd'hui scénariste et romancière. Avant cela, vous avez été lectrice de scénarios, notamment pour des maisons de production, avant donc de prendre vous-même la plume. Ce roman, est-ce qu'il pourrait faire un bon début de scénario? Est-ce qu'il pourrait faire un bon film par la suite? En somme, est-ce que vous avez pensé à l'image en l'écrivant?
Je n'ai pas du tout pensé une adaptation possible quand j'écrivais. Si cela intéressait quelqu'un, j'en serais très flattée. Mais le sujet, la façon de l'aborder, l'exploration ne me semblait se prêter davantage à l'écriture romanesque qu'au cinéma. Enfin, en tout cas, moi, j'avais le sentiment que j'aurais beaucoup plus de liberté et la possibilité de creuser quand même des thèmes difficiles. La littérature allait me permettre ça. Et je pense que si j'avais pensé à un scénario, ça m'aurait bloqué sur certains aspects.
Vous avez raconté qu'en France, il y a 2 écoles de scénarios, l'école Truffaut et l'école Piala. Vous vivez aujourd'hui aux États-Unis. Là aussi, il y a 2 écoles de scénarios, l'école de la côte ouest et l'école de la côte est. Dans les studios américains, est-ce que vous pensez que le scénario pourrait encore être un objet de séduction, comme vous l'avez qualifié pour la France? Ou est-ce que tout est trop fragmenté? Est-ce que c'est une chaîne dans la réalisation d'un film où le scénario a une place totalement différente aux États-Unis?
Le métier de scénariste aux États-Unis est beaucoup plus reconnu qu'en France. Il y a une tradition française qui nous vient de la nouvelle vague, qui est que le réalisateur est aussi auteur de ses scénarios. Pourtant, aux États-Unis, il y a aussi des réalisateurs qui ont un regard très particulier. Quand bien même Eastwood ne signerait pas ses scénarios, il a évidemment une œuvre qui n'appartient qu'à lui. Mais c'est vrai que les Américains sont beaucoup plus impressionnés, s'intéressent beaucoup plus à la partie scénario qu'en France. Je ne sais pas s'il y a d'autres raisons à cela, mais oui, les scénaristes français sont plus trop plus cachés, on les voit pas trop, c'est pas trop ce qu'ils fabriquent.
Il y a failli avoir une grève d'ailleurs aux États-Unis des scénaristes l'an passé. Est-ce à dire qu'en France, où peut-être le milieu est plus sage, les scénaristes font moins entendre parler d'eux, qu'il y a un peu moins de vagues de ce côté-là, est-ce à dire que les scénaristes français sont beaucoup mieux lotis, vous pensez, que les scénaristes américains?
Les scénaristes français sont très peu nombreux. J'ai appris ça il y a peu. Il n'y a que 80 scénaristes français de cinéma qui vivent de leurs plumes aujourd'hui. Donc évidemment, s'ils faisaient un mouvement de grève, vous imaginez bien que l'impact serait pas très,
peu
très important.
Et peut-être moins organisé du coup aussi qu'aux États-Unis. Ouais.
Oui, le syndicat des scénaristes aux États-Unis est très puissant. Enfin, là, ils n'ont pas fait grève, mais quand ils ont fait grève, c'était incroyable, puisque la machine s'est totalement arrêtée.
Alors, on va terminer avec un mot des Oscars qui auront lieu le 24 février prochain aux États-Unis. Depuis fin octobre, quelques titres de films commencent à circuler. First Man de Damien Chazelle, Star is Born de Bradley Cooper, le nouveau film aussi de Barry Jenkins qui avait reçu l'an passé l'Oscar du meilleur film avec Moonlight, Yorgos Lanthimos, Rami Malek pour l'Oscar du meilleur acteur. Bon, ça c'est quelques-uns des pronostics qui commencent à se glisser ici ou là. Puis il y aurait cette rumeur aussi que Black Panther pourrait être nominé. Alors, il faut parler quand même côté film étranger que la France sera représentée à travers La douleur d'Emmanuel Finkel plus que les Césars. Est-ce que vous pensez que les Oscars aujourd'hui parviennent à récompenser des grands films populaires? Est-ce que ce tabou-là, il a sauté aux États-Unis beaucoup plus vite qu'en France?
Je ne sais pas. Moonlight, par exemple, est-ce que c'est un film populaire? C'est un très grand film que j'aime beaucoup. Et puis on a eu quand même des années, c'était un peu maussade, avec des films qui m'ont pas semblé, qui m'ont pas semblé mériter l'Oscar. Après, la particularité des membres de l'Académie des Oscars, c'est qu'ils sont quand même assez âgés, très white. Et là, l'Académie a invité des nouveaux membres du monde entier. Et j'espère que ça va impacter donc des gens plus jeunes, des femmes, beaucoup de femmes. J'espère
dont vous.
Dont moi. Et j'espère que ça va changer un petit peu le genre de film.
Les sélections, les nominations et les Oscars à la fin. Merci à vous beaucoup, Julie Père Anomalie. Votre deuxième roman vient de paraître, ou est paru, apparu à la rentrée aux éditions des Équateurs. Merci beaucoup.
Merci à vous.